est au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique. Et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940.
Devenu nom commun, le nom de Pierre Larousse est aujourd'hui celui d'une famille nombreuse, au point que son nom est associé également à la gastronomie, encyclopédique bien entendu. La branche collatérale vient encore de s'enrichir d'un nouveau-né à l'occasion de ce 150e anniversaire.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage... Là, les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Voilà bien un contraste qui est fait pour intriguer. En un temps où les nouvelles technologies paraissent pouvoir donner accès sur nos ordinateurs en quelques clics à une foule d'informations sur toutes choses au monde, la publication de dictionnaires en papier, n'a jamais autant prospéré. Dans nos chères librairies, dans nos chères bibliothèques publiques, ils se multiplient sur les rayons. Grands écrivains, passions spécifiques, volubilité des langages, les titres que l'on offre de toutes parts à nos curiosités sont en efflorescence. Et dans ce paysage éditorial, le goût vient de considérer ce que peut être l'actualité irréfragable du prodigieux grand dictionnaire universel de Pierre Larousse, cette entreprise titanesque qui a surgi au cœur du XIXe siècle et qui, un siècle après l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, a marqué en profondeur la République française et ses ambitions autant civiques que culturelles. Pascal Horry y a consacré, jadis, en complicité avec Jean-Yves Mollier, un très bel ouvrage pour lequel ils avaient recruté bon nombre de talents qui furent disposés, je dirais même ardents, à réfléchir à ce phénomène hors de pair. Il s'agissait d'une anthologie commentée et organisée par thème, d'une œuvre que Victor Hugo avait saluée en son temps comme, je le cite, « une belle et grande idée » et comme un monument élevé au XIXe siècle. Le XIXe siècle, oui, bien sûr, mais au-delà peut-être, au-delà probablement. Avec Pascal Horry, nous allons nous attacher, tout en restituant ce qui enracine l'aventure du dictionnaire universel dans son temps spécifique, à considérer ce qu'elle peut nous dire sur les continuités des relations d'un peuple avec sa langue, avec les tensions qui le travaillent, avec ses rêves autochtones ou planétaires, et en définitive, avec la fierté d'une différence destinée à lui créer plus de devoirs que de privilèges. Et pour commencer, une entrée du dictionnaire fameuse consacrée à Bonaparte.
Le nom le plus grand, le plus glorieux, le plus éclatant de l'histoire, sans en excepter celui de Napoléon. Général de la République française, né à Ajaccio, île de Corse, le 15 août 1769, mort au château de Saint-Cloud, près de Paris, le 18 Brumaire, an 8 de la République française, une et indivisible, 9 novembre 1799. Ce début, qui va faire dresser plus d'une oreille, montre tout simplement qu'en toute chose, nous aimons les situations tranchées. Et les oreilles reviendront à leur état normal quand nous aurons dit que nous voyons deux hommes, aussi bien que deux noms, en Napoléon Bonaparte. Bonaparte et Napoléon. Le général républicain, l'écolier de Brienne, le brillant officier de Toulon, le convive républicain du souper de Beaucaire, le vainqueur d'Arcole, etc. Puis, le colosse d'Austerlitz, le maître de l'Europe, le vaincu de Waterloo, le prisonnier de Sainte-Hélène. Oui, il y a deux hommes en cette personnalité. C'est du premier seulement que nous nous occuperons à cette place. C'est de sa jeunesse, de ses espérances, de sa vie privée et militaire, ou plus exactement encore, de sa vie républicaine que nous allons entretenir le lecteur. Pour l'autre, voir Napoléon à l'ordre alphabétique de notre grand dictionnaire.
Pascal Horry, bonjour.
Bonjour Jean-Noël Jeannet.
Nous devons cette lecture à Roger Vrigny dans l'émission dont il avait été le producteur, la littérature sur France Culture, le 15 mai 1975. On peut rappeler que le souper de Beaucaire est une œuvre de jeunesse de Napoléon Bonaparte, une œuvre qui remonte à 1793.
D'esprit jacobin, c'est pour ça que Larousse la pointe au passage.
C'est sous la terreur. Alors voilà un très fameux morceau, tout petit mais très célèbre, du grand dictionnaire universel.
Tout à fait, à la lettre B, comme il se doit, c'est-à-dire sous le Second Empire, puisque le grand dictionnaire universel du XIXe siècle a commencé à apparaître au milieu des années 1860, mais sa parution s'est prolongée jusqu'au-delà de la chute de Napoléon III. Vous imaginez, par le ton de la lettre B, le ton de la lettre N quand on est arrivé à Napoléon Ier.
Là, je ne vous le donne pas à entendre, mais chacun s'y reportera.
Tout à fait.
D'ailleurs, il est en ligne, ce dictionnaire.
Absolument, grâce à Gallica, la Bibliothèque nationale de France.
Agréons ce salut. Le dictionnaire tel qu'il est, et tel que cette entrée Bonaparte nous le dit, est une construction très complexe, avec des renvois de toutes sortes, qui au fond peuvent renvoyer à Internet d'aujourd'hui.
Tout à fait. La grande encyclopédie à laquelle se réfère sans arrêt, évidemment, Pierre Larousse, pour diverses raisons, pour des raisons professionnelles, puisque c'est un grand lexicographe lui-même, mais parce que c'est aussi un esprit républicain qui se réclame du siècle des Lumières, donc Diderot, d'Alembert, pratiquait beaucoup les renvois. Et on sait que c'est une grande technique pour permettre de guider le lecteur sur des chemins un peu de traverse. Et ça explique pourquoi, par exemple, les annexes dans le grand dictionnaire universel sont souvent plus vives, plus politiques encore que les articles. Henri IV a droit à 3 colonnes, mais 6 colonnes d'annexes. Jésus a droit à 11 colonnes, mais les jésuites ont droit à 30 colonnes. On imagine aussi le contenu.
Avec des renvois, Constance, c'est le grand Alexandre Vialat qui disait quelque part « Les dictionnaires contiennent tout, c'est l'univers en pièces détachées. Dieu lui-même, qu'est-ce au fond qu'un Larousse plus complet ?»
Ah, c'est génial. Je pense que Larousse aurait aimé.
Et on retrouve le même type de construction avec ses renvois, ses rappels, ses surprises, ses rebonds dans les dictionnaires consacrés au dictionnaire. Il y en a un très beau récent paru chez Honoré Champion auquel je veux d'emblée rendre hommage, c'est celui de Jean Pruvot, plein feu sur nos dictionnaires en 2500 citations. Il a écrit aussi, je donnerai le détail bibliographique tout à l'heure, un dico des dictionnaires qui est succulent.
Et un travail sur Pierre Larousse, qui est évidemment un modèle pour tous les lexicographes d'aujourd'hui, ce qu'est Jean Pruvot.
Alors il faut que nous nous saisissions du personnage, Pascal Horry, pour commencer, et que vous nous rappeliez ce qu'a été l'histoire de Pierre Larousse, ce qui a pu le conduire à cette ambition qui apparaît en vérité assez folle, si on songe que le dictionnaire contient plus de 20 000 pages, 480 millions de signes, 524 fascicules de 40 pages.
Oui, et tous les témoignages de l'époque concordent, et on en a la preuve en lisant article par article, vous imaginez, toute une vie peut y passer, que Pierre Larousse s'est beaucoup investi dans l'écriture. Soit il a écrit directement, soit il a mis son grain de sel. Et quel grain de sel, d'ailleurs.
Alors d'où vient-il? On le rappelle, en 1952, les actualités françaises, vous savez, qui précédaient le grand film dans les cinémas, le rappelle avec le ton d'époque, c'est le centenaire de la maison Larousse, le 30 octobre 1952. Écoutez donc.
Le dictionnaire Larousse a 100 ans. Cet anniversaire ne pouvait pas passer inaperçu et une brève cérémonie destinée à commémorer la naissance de son auteur s'est déroulée dans la petite ville de Toussy, dans l'Yonne, où un jour d'octobre 1817, le grand encyclopédiste français vit le jour. Toussy garde pieusement le souvenir de son grand homme Pierre Larousse, dont cette maison calme entre les arbres abrita la jeunesse. Sans doute vint-il plus d'une fois rêver le soir dans l'atelier de son père. Sans doute pourrions-nous facilement retrouver son ombre studieuse dans cette classe d'école primaire. Mais pour nous, la vie de Pierre Larousse commence vraiment dans la pénombre des bibliothèques de Paris, où chaque soir, après 4 heures, il polissait déjà avec amour les mots du vocabulaire français. S'accordant un menu spartiate fait d'oignons et de beurre, envoyé de Toussy par sa mère. Enfin, en 1852, les premiers feuillets de son encyclopédie voyaient le jour. Et Pierre Larousse, avec Augustin Boyer, fondait sa librairie. Dès lors, le Larousse allait connaître un succès étonnant. Le seul petit Larousse en est aujourd'hui à son 10 millionième exemplaire. C'est après la Bible, le livre le plus lu du monde.
Le voilà tel qu'on le voit 100 ans après la naissance de
la maison Larousse.
Maison oui. d'édition.
Oui.
Et non pas, en vérité, du petit Larousse.
Oui, on y reviendra peut-être tout à l'heure.
Soyons indulgents pour les actualités françaises.
Voilà. Pierre Larousse est donc né à Toucy dans l'Yonne en 1817, et ce n'est pas sans signification. On est à quelques lieues, dirait-on encore un peu à l'époque, mais déjà un peu kilomètres de Auxerre. Et il suffit de visiter Auxerre pour se rendre compte à quel point encore aujourd'hui c'est une région très imprégnée de culture républicaine. Moi, ça m'a toujours beaucoup frappé à Auxerre. Auxerre qui est la ville de Paul Bert, ce nom qui ne dit plus rien à personne sauf à nous deux, peut-être.
Mais si, vous, non, ne minimisez pas la culture de nos auditeurs.
Bon,
Paul Bert qui était un des grands
médecin physiologiste, grand républicain, homme politique, très lié à la Ligue de l'enseignement. Bon, c'est toute une ambiance, c'est celle aussi de Pierre Larousse, à cette différence près que c'est un fils d'aubergiste et de charron.
Paul Bert, c'est la génération de Jules Ferry.
Voilà, exactement. On est vraiment dans cette génération des républicains de l'Empire, des laïcs, parfois des francs-maçons, des anticléricaux, ceux qui n'aiment pas les jésuites, on l'a dit tout à l'heure, et qui sont profondément démocrates. Bon. Alors, de surcroît, c'est l'enfant de l'aubergiste et du charron.
Elle est aubergiste, lui est
voilà,
charron.
Voilà, et il y aurait beaucoup de choses à dire d'ailleurs sur le charron ou sur le forgeron, mais en tous les cas, l'aubergiste, clairement, le samedi à Toucy, c'est le grand marché. Le petit Larousse, je veux dire le petit Pierre, est là, au milieu de tout le monde, dans cette sociabilité villageoise. Il absorbe les paroles, la fin du dialecte, la langue française, ça sera un homme vraiment de la langue, hein, son premier dictionnaire, un dictionnaire de langue, hein, c'est ça qui fera sa fortune, même puisqu'on vient de parler de chiffres, ce nouveau dictionnaire de la langue française qui est bien oublié aujourd'hui, aurait été vendu en 50 ans à 5 millions d'exemplaires quand même. Donc le petit Larousse, le petit Pierre Larousse s'imprègne de ça et repéré.
On dit que des colporteurs qui passent, oui. 3500 colporteurs dans la France de l'époque et 9 millions de livres, il les a pas tous lus, mais enfin certains passent par Toucy,
tout
et viennent
fait.
Nourrir la jeune imagination, le jeune talent, les jeunes ambitions de Pierre Larousse.
On est en Bourgogne, mais donc dans la frange la plus nordique de la Bourgogne. On n'est quand même pas très loin de Paris, même si c'est avant le chemin de fer que va chanter Larousse, évidemment, comme il va chanter le progrès. Et, donc, d'une certaine façon, l'attirance de la capitale va se vérifier pour lui comme pour tant d'autres. Mais entre-temps, il aura été repéré par le maître d'école. On parle à peine d'instituteur, qui a bien vu que c'était quelqu'un d'assez affûté, que ce petit Pierre, qui aimait le livre. Pierre Larousse, qui raconte sa vie dans le dictionnaire, on le vérifiera tout à l'heure.
Non, mais on peut le vérifier dès à présent, c'est dans l'article Robinson. L'article
oui,
Robinson,
par exemple.
Il se dépeint lui-même à l'âge de 9 ans. Ce genre de pratique
tout à fait.
A disparu aujourd'hui chez les lexicographes contemporains, il me semble. Il dit « Ma santé était chétive et la lecture faisait sur moi une vive impression. Bref, le médecin avait interdit tout travail d'imagination. Je devais me coucher avec les poules. » Et comme elle, dormir tout de suite. Apparemment, il ne dormait pas tout de suite.
Oui, et si on continue l'article, il dit qu'il a osé voler 4 chandelles à sa mère, une chandelle par nuit, 4 nuits pour lire, en secret, Robinson Crusoe.
Prometteur, ce petit Pierre.
Voilà, prometteur, poussé par son maître d'école. Il ira jusqu'à l'école primaire, effectivement normale, comme on dit déjà à cette époque, de Versailles, donc il s'éloigne. Il en sort pour être instituteur, il est programmé pour être instituteur à Toucy, il revient à Toucy, il exerce pendant 2 ans, et s'il s'était contenté de ça, on ne serait pas ici ce matin en train d'en parler.
Quel chagrin.
Et il est déçu. Voilà, c'est un pédagogue dans l'âme, il est déçu par les manuels ou l'absence de manuels, parce qu'on n'imagine pas ce que ça pouvait être, l'absence de manuels plutôt, dans les écoles primaires de la monarchie de Juillet, fortiori de la Restauration avant, par les méthodes qui lui paraissent vraiment obsolètes, et il franchit le pas, il s'éloigne du métier d'instituteur, donc il va chanter évidemment les louanges plus tard. Il s'installe à Paris pour se former complémentairement en autodidacte, sans chercher à obtenir des diplômes. Mais ça va lui permettre d'emmagasiner une culture personnelle, fondée d'abord sur la langue et ensuite sur l'encyclopédisme, dans la grande tradition du siècle des Lumières, et qui va lui servir quand il va créer, effectivement, en 1852, cette maison Larousse, avec un garçon du pays, de Lyon aussi, Augustin Boyer, qu'on vient de citer là dans l'extrait qu'on nous a diffusé. Et on est en 1852, c'est-à-dire au moment où Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de l'autre, prend le pouvoir complètement, va devenir même empereur. Alors qu'est-ce qui reste à ces républicains dans l'âme? Eh bien, de se dire, nous allons travailler l'opinion sur la longue durée, enfin je parle avec le vocabulaire d'aujourd'hui, 2019 évidemment, et être capable de décrocher, il faut le faire, c'est sous la censure, hein, un brevet d'éditeur et de libraire, en fait, tout ça est un peu mélangé, libraire et éditeur à l'époque, c'est une manière de pouvoir se dire, je vais exercer une influence sur l'opinion à travers quoi ? Des manuels scolaires, des ouvrages de lexicologie, et ensuite, effectivement, cette apothéose que sera le grand dictionnaire.
Mais il faut imaginer la formidable dimension de la culture multiforme que ce jeune homme avait acquise en passant des journées dans les bibliothèques, bibliothèque Sainte-Geneviève et autres. Il dit d'ailleurs quelque part qu'il voudrait que la bibliothèque impériale, ancêtre de la bibliothèque nationale, reste ouverte la nuit comme le jour, la nuit de Noël comme le jour de Pâques.
C'est oui, ce qui est une aspiration qui n'a pas anticléricale.
C'est aussi une aspiration qui n'a pas encore été assouvie.
Pas vraiment, non. Et effectivement, la rencontre avec Boyer est intéressante parce que Boyer, comme souvent dans ces couples-là, va être le gestionnaire et Pierre Larousse va pouvoir construire des édifices de plus en plus ambitieux parce que ce grand dictionnaire dont on a donné les chiffres, c'est quand même quelque chose d'écrasant. Les autres dictionnaires Larousse qui suivront et qui marqueront chaque génération seront beaucoup plus modestes que le grand dictionnaire universel. Mais c'est vrai que du coup, on a affaire à une œuvre extrêmement personnelle, avec sans arrêt des interventions de l'auteur dans les articles. Et on peut reconstituer la biographie de Pierre Larousse essentiellement, parce que c'est extraordinaire, par les articles de son dictionnaire.
Parce que ses archives sont perdues.
Oui. Et c'est presque mieux que des archives. Je vous donne un exemple. Dans l'article Hanneton, il raconte, et c'est un article fort long du coup, étonnamment long pour Hanneton, je n'ai pas de mépris pour les Hannetons, mais quand même, une farce qu'ils ont construite avec ses camarades de l'école de Toussy, qui est citée, face à un instituteur qui avait tendance à s'endormir, d'où la nécessité de faire venir des Hannetons, une vingtaine de Hannetons, dont le bourdonnement, je ne sais pas si les Hannetons bourdonnent, sans doute pas, il faudra regarder dans le dictionnaire ce qu'ils font les Hannetons, réveille l'instituteur. Bah, ça, c'est dans l'article Hanneton, vous voyez, dans l'article emprunt au sens financier du terme. Sorti en 1870, il y a ça, je trouve que c'est presque un record. Dans l'article emprunt, on lit « Aujourd'hui, 15 mars 1870 », là on a la date de la rédaction de l'article, « l'emprunt tunisien, il y avait déjà un emprunt tunisien, est tombé à 160 francs. C'est le cas de le dire, quelle dégringolade !» Dans un article sur l'emprunt. Je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça.
Une immédiateté de ce qui vient nourrir les articles, qui sont pourtant destinés à perdurer.
Oui, mais d'autant plus que ce qui sauve un tel dictionnaire, parce qu'on pourrait dire, si tous ces articles ressemblent à Hanneton et emprunt, bon, poubelle. Non, c'est que c'est extrêmement bien documenté. Grâce à Pierre Larousse, grâce à ses collaborateurs. Jules Vallès n'a pas été le plus actif, mais il a été l'un des collaborateurs. C'est le Jules Vallès d'avant la Commune.
L'auteur de l'enfant, de l'insurgé.
Du grand dictionnaire. Mais des personnes,
le bachelier.
Personnalités moins connues, mais fondatrices de la République, comme Louis Liard, est un des collaborateurs du grand dictionnaire. Et puis, tout à fait obscur, mais très proche de Gambetta, donc ça dit beaucoup de choses. Louis Combes, spécialiste de la Révolution française à l'époque, et qui rédige à peu près tous les articles, au moins en première main, sur la Révolution française. Et puis, Pierre Larousse arrive derrière tous ces auteurs et rajoute, en général, il en rajoute une couche.
Et quand on les cite, on voit qu'il s'agit de jeunes gens qui étaient profondément hostiles au Second Empire. Le grand dictionnaire chevauche l'Empire et passe par-dessus Sedan et la Commune pour continuer au début de la Troisième République. D'ailleurs, il n'a pas vu la fin de son grand dictionnaire puisqu'il meurt en 1875, âgé de 58 ans seulement. Et accablé peut-être par le travail, après 3 attaques, ce qu'on appellerait aujourd'hui AVC.
Exactement, alors ça fait partie du mythe de Pierre Larousse, mais ça peut être tout à fait pertinent. 3 congestions liées au surmenage, a-t-on dit à l'époque.
C'est une génération qui est évidemment très hostile au Second Empire. Voyez ce qu'il écrit dans le dictionnaire, Pierre Larousse. « Ni calme, ni quiétude, ni commerce, ni liberté, ni gloire réelle. Des dettes, la démoralisation, l'agiotage, les faillites accumulées, l'influence de la France diminuant chaque jour en Europe, tel est le bilan du Second Empire. À ce bilan déjà si triste, il faudra ajouter les suites encore inconnues de la funeste guerre de 1870, ce qui date évidemment l'entrée que je cite. Pour aujourd'hui, on est le 6 septembre 1870, à la suite d'une révolution qui est venue 18 ans trop tard, la République française se trouve en face du sol de la patrie envahie, etc., etc.
Oui, et la préface au Grand Dictionnaire Universel, donc de 1865, est très surprenante encore aujourd'hui. puisqu'elle est, entre autres, un grand hommage à Proudhon, qui vient de disparaître. Et vous imaginez ce que ça peut signifier de lire pour les lecteurs de ces premiers fascicules du Grand Dictionnaire Universel du XIXe siècle, Larousse disant « Je me suis adressé, alors je cite, à l'homme le plus hardi, au plus profond penseur du XIXe siècle, donc Proudhon, et je lui ai fait lire, c'est extraordinaire, l'article, puisque c'est la lettre A, anarchie. » Et on imagine la scène. Et Proudhon dit « Mais écoutez, c'est très intéressant. » quand vous en serez à la lettre D, Dieu, et quand vous en serez à la lettre P, propriété, faites appel à moi. Et Proudhon meurt sur ces entrefaites. On ne saura jamais ce qu'il aurait écrit sur Dieu et propriété à la fin de sa vie. Je précise que Proudhon est loin d'être un absolu opposant au Second Empire. Hein. Enfin, Proudhon, c'est quand même extrêmement radical au sens strict du terme.
Parce qu'elle ne peut pas considérer l'œuvre de Larousse, le grand Larousse, auteur du Grand Dictionnaire, on ne peut pas la considérer sans prendre en compte le fait que constamment, vous le disiez tout à l'heure, il a un souci pédagogique. Il s'agit de former des républicains. L'hommage à l'instituteur que je vais vous donner à entendre est à cet égard topique. C'est une lecture d'André Casalas dans l'émission Hommage à Pierre Larousse de Georges Charbonnier sur France Culture le 11 janvier 1975.
L'instituteur peut exercer sur l'esprit de ses élèves une influence très utile. Pour écarter les obstacles que rencontrent les savants lorsqu'ils veulent montrer au grand jour ce qu'ils ont reconnu vrai et utile. D'abord, il peut inspirer aux enfants des sentiments d'estime et d'admiration pour les savants. Il peut jeter dans leurs jeunes intelligences des semences qui produiront plus tard la conviction intime que, si les maux dont la société est grevée peuvent être amoindris, extirpés peut-être, c'est de la science qu'il faut attendre le salut. Et comme tous les vrais savants sont ennemis du despotisme, les jeunes esprits formés par les soins d'instituteurs habiles s'accoutumeront de bonne heure à aimer la liberté. Plus tard, quand les enfants seront devenus des hommes, quand ils seront appelés à exercer leurs droits d'électeurs, ils voteront d'une manière éclairée et ne se laisseront plus dicter leurs choix par des hommes intéressés à barrer la voie du progrès.
Le progrès, c'est fondamental, le progrès pour Pierre Larousse.
Oui, je le cite d'ailleurs, la foi à la loi du progrès est la vraie foi de notre temps.
C'est là, ajoutait-il, une croyance qui trouve peu d'incrédules.
Exactement. Et il est contemporain de ce Pelletan qui est l'auteur d'une profession de foi du XIXe siècle. On est dans ce qu'on appellera d'ailleurs péjorativement a posteriori, parce que c'est pas un mot qu'eux utilisent, le scientisme.
C'est Eugène Pelletan, le père de Camille Pelletan, qui a été voilà. Ministre de la Marine au début du XXe siècle.
Exactement. Alors c'est du progressisme, le mot n'existe pas vraiment, mais c'est du progressisme. C'est la conviction que l'histoire a un sens. Ce qui permet d'éclairer d'ailleurs les articles où il dit que, au fond, la chouannerie, bon, il est évident contre les chouans, mais la chouannerie, c'est surtout le passé. Bon, ce sont des gens qui se sont révoltés, ils avaient peut-être quelques raisons. En tous les cas, ils appartiennent au passé, on ne reviendra pas là-dessus. C'est la même chose pour l'article basque, quand il s'agit des langues ou des cultures régionales, dirait-on aujourd'hui. On peut imaginer qu'il va promouvoir la langue française, mais il a une sorte de respect à l'égard d'une langue qui, évidemment, va disparaître. Dans l'article juif, par exemple, il n'est pas du tout anti-juif, mais ça consiste à dire, évidemment, les juifs vont abandonner l'hébreu, ça n'a aucun sens de parler hébreu, et ils vont tous s'assimiler. Oui, on sent bien la logique qui est derrière tout ça. Il y a une loi, l'histoire a un sens, et en ce qui concerne la France et les nations, c'est l'assimilation.
On n'est pas si loin de l'héritage tel qu'il l'éprouve de la Révolution française, en tout cas, des
tout
premières
à,
années.
Tout à fait. Sur ce plan-là, il est tellement cohérent avec ce que construira la Troisième République à l'époque du Tour de la France par deux enfants, de la Ligue de l'enseignement, d'Ernest Lavisse, que c'en est tout à fait remarquable. Le culte de Paris... Cet homme est un vrai bourguignon qui n'arrête pas de faire allusion à Toussy, non pas à toutes les pages, mais en tous les cas, dans tous les volumes. Et en même temps, il consacre 56 pages à Paris, c'est-à-dire deux fois plus qu'à la France, à l'article France. Et il dit clairement, Paris, centre du monde entier.
Son regard, naturellement, sur la monarchie est très, très sévère, sur les rois successifs.
Il est particulièrement sévère, c'est très impressionnant encore aujourd'hui. François Ier, on va lui chercher certainement des poux dans la tête. Louis XIII, Louis XV, Louis XVI, c'est quand même un traître, hein, évidemment. Il a cherché à s'enfuir vers l'étranger.
De Louis XIV, il disait, c'est un esprit aussi clair qu'un brouillard de Hollande.
Oui, c'est Louis XIV qui a droit à la plus grande diatribe, mais on peut l'expliquer. Même chose pour sa réserve à l'égard d'Henri IV, on pourrait dire. Mais c'est qu'il écrit dans les années 1860-70, et surtout à partir de 70 jusqu'au milieu des années 1870, hein, je précise bien, Henri IV, c'est vraiment un des grands arguments des monarchistes qui veulent la restauration. Donc, on ne va pas accepter Henri IV du lot, évidemment. On va, en revanche, exalter qui du côté de la Révolution ? Danton. C'est assez cohérent avec Auguste Comte. Et beaucoup de froideur à l'égard de Robespierre, pas mal de réserve à l'égard de Marat et de Saint-Just, donc on voit bien où il se situe.
Diderot et Danton, ces deux grands hommes, il les pose comme tels.
Tout à fait. Là où il va assez loin, c'est qu'il n'est pas... Mais alors, est-il à ce moment-là l'auteur de toutes les notices, puisqu'on est en 71, 72, 73 ? Il n'est pas complètement sévère à l'égard de la Commune. L'article Gustave Flourens... Mais Gustave Flourens est un intellectuel, entre guillemets, victime directement de la répression versaillaise.
Il l'a caché chez lui ?
Oui, il l'a caché chez lui, en plus. C'est un ami, bon...
Qui va mourir sur les barricades à 33 ans.
Exactement. Donc, Flourens, et ça sort à chaud après la Commune, a droit à un article tout à fait positif. C'est très audacieux pour Larousse quand on pense à ce qu'écrit Georges Sand ou fortiori Gustave Flaubert sur la Commune à ce moment-là. En même temps, on ne peut pas en faire non plus, comme on le fait parfois, un vrai communard. Non, non. Il a la position de Victor Hugo, d'une certaine façon. Son cœur saigne parce que c'est la guerre civile. Voilà, c'est ça qui le marque le plus. Sans être freudien ou quoi que ce soit, on peut dire que son premier AVC, son deuxième AVC sont consécutifs quand même à l'année terrible.
Si vous considérez toutes ces positions, Pascal Horry, j'ai le goût de vous poser une question peut-être difficile. Qu'est-ce qui vous paraît désuet et qu'est-ce qui vous paraît aujourd'hui contemporain dans toutes ces positions qu'il a pu prendre ?
Tout ça est quand même très étroitement intriqué dans le même article. On pourrait se dire, mon Dieu, qu'est-ce que c'est daté? Puis mon Dieu, ah là là, mais c'est incroyablement moderne.
Mais ça, c'est concordance d'état.
Voilà, exactement. Quand même, son regard sur les cultures régionales est évidemment quand même plutôt condescendant. Son regard sur la colonisation, alors on peut imaginer les articles de la lettre C paraissent sous le Second Empire. Donc il s'agit d'un empire colonial encore balbutiant. Hein. Mais colonisation, colonisateur, il n'y a pas l'ombre d'une objection parce que le progrès va arriver grâce à la colonisation.
Algérie, Cochinchine.
Voilà. Et il ne faut pas oublier que c'était le grand argument, y compris à gauche, pour justifier la colonisation, et jusqu'au cœur du XXe siècle. On peut aussi parler de son regard sur les femmes. Il est évident que c'est un homme viril qui est volontiers gaulois, comme on disait, comme il le dit lui-même, pour ne pas dire égrillard. Et aujourd'hui, ces textes pourraient être montrés du doigt.
Vous en voulez un, j'imagine?
Ah, volontiers.
C'était une transition. Écoutez cette lecture de l'article « Femme » du Grand Dictionnaire Universel par Roger Vrigny sur France Culture, le 15 mai 1975.
On peut dire d'une manière générale que les femmes sont d'autant plus passionnées, plus lascives et plus débauchées qu'elles vivent dans des pays plus chauds. Les femmes européennes n'échappent pas à cette règle générale. Ainsi, les Portugaises, les Italiennes, les Espagnoles sont plus amoureuses que les Françaises. Et celles qui habitent le midi de la France le sont aussi bien plus que celles qui habitent le Nord. Presque toutes les Allemandes et les Anglaises sont froides. Et si les femmes russes s'adonnent davantage aux voluptés, c'est parce qu'elles sont plus corrompues et que l'habitude qu'elles ont de se couvrir de fourrure et de se chauffer constamment produit sur elles les effets d'un climat méridional.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Là, en l'occurrence, Pascal Horry, je n'insisterai peut-être pas sur l'actualité d'un tel propos.
Oui, outre le côté, dirait-on aujourd'hui, café du commerce de tout ça, évidemment, sur quoi vous fondez-vous pour dire ça, il y a quand même quelque chose qui correspond à l'esprit de l'époque, y compris dans les personnalités dites les plus avancées, donc à gauche, chez les matérialistes, etc., une lecture presque physiologique quand même, hein. Broca, des gens comme ça, sont à la fois de grands républicains, des athées ou des agnostiques, et des gens qui considèrent que désormais la science a la réponse à tout et qu'on peut ramener l'histoire de l'être humain à sa physiologie.
Le grand médecin Paul Broca.
Voilà. Et ça peut donc conduire à des prises de position complètement matérialistes ou à des prises de position racistes ou eugénistes, hein, chez certains des héritiers de Broca.
Et on trouve cela dans le Grand Dictionnaire ?
On trouve dans le Grand Dictionnaire une appréciation élogieuse de Gobineau, mais il faut savoir que de toute façon, Gobineau,
c'est l'auteur de l'essai sur l'inégalité des races humaines.
Voilà. Et l'essai sur l'inégalité des races humaines...
Le secrétaire de Tocqueville.
Voilà. Justement, Gobineau a une image encore un peu floue quand Larousse en parle. Et d'ailleurs, la vision de Gobineau est une vision pessimiste, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que pour lui, il y a des races, elles sont inégales, mais de toute façon, il y a plutôt la décadence. Hein. C'est très différent de la position raciste ultérieure. Mais on comprend bien qu'une partie du racisme, mais c'est après la mort de Larousse, ça s'épanouit dans les années 80-90, peut être très clairement identifié à gauche. Hein. C'est pas du tout contradictoire à l'époque.
Et puis je sens que vous avez envie de nous parler des asperges à ce propos.
Oui, c'est comme pour l'article Hanneton, on ne s'attend pas dans l'article asperges à trouver quelques considérations que Pierre Larousse eut qualifié lui-même de gauloise. À propos de ces asperges, alors c'est le souvenir d'ailleurs de sa jeunesse dans l'Yonne, qui au printemps, je le cite, se trouve tellement chez elle, dans les prairies, qu'elles y poussent d'elles-mêmes, comme les belles courtisanes d'Athènes poussaient naturellement à Corinthe, à Lesbos et à Milet. Tout ça, c'est à propos des asperges.
Alors
ça se poursuit comme cela. J'ai connu un vieux professeur, c'est toujours dans l'article, hein. C'est pas dans ses mémoires. Ses mémoires, ce sont ses articles de dictionnaire. J'ai connu un vieux professeur, républicain et lettré, deux qualifications qui ne s'excluent pas. Petite pique au passage. Qui disait, chaque fois que la conversation tombait sur les asperges, que l'on dise du mal de Caton et d'Aristote, mais jamais des asperges.
Il y a un autre thème qui me paraît important et qui, lui, rejoint peut-être notre contemporanéité. Mot récent dans les Larousse, d'ailleurs, celui que je viens d'employer. C'est l'éloge des chemins de fer, qui sont très, très importants dans l'œuvre de Larousse, dans le Grand Dictionnaire universel. Leur histoire, elle est récente. Ils sont apparus en France sous la monarchie de Juillet et se développent sous le Second Empire, est très directement lié au progrès auquel, nous le disions, Pierre Larousse croit profondément. Et vous voyez ce qu'il dit à l'article chemin de fer. Quels mots magiques et de quelle auréole ils sont environnés quand ils nous apparaissent comme synonymes de civilisation, de progrès et de fraternité. Aujourd'hui, grâce au chemin de fer, grâce à cette merveille des inventions, l'homme n'a plus rien à envier aux poissons et aux oiseaux. L'hirondelle, dans son vol rapide, aura du mal à suivre l'homme et il peut aller d'un pôle à l'autre avec plus de vitesse que ces énormes cétacés qui traversent alternativement les océans des deux mondes.
Oui, que n'aurait-il pas dit avec le plus lourd que l'air, l'avion, etc. C'est très cohérent avec son esprit progressiste qui, accessoirement, fait des victimes au passage, y compris le métier de son père, hein, Charon. Tous les fils de Charon deviendront garagistes, hein, s'ils ont compris le sens de l'histoire. Oui, c'est vraiment tout l'esprit de la culture de la Troisième République tel qu'on peut le retrouver en lisant les manuels scolaires de la fin du siècle.
Cette conviction que va se développer ce que nous appellerions de façon anachronique une mondialisation n'est pas incompatible avec un patriotisme affirmé, avec la conviction, il faut s'y attarder un instant, Pascal Horry, avec la conviction que la France, c'est tout de même le plus beau pays du monde.
Tout à fait, et il ne manque pas une occasion de le dire et de le redire. Comme le dit Victor Hugo à cette époque-là, hein, qu'il s'agisse de Paris ou de la France, on est vraiment le centre de l'univers civilisé. Parmi les notions évidemment très obsolètes à nos yeux aujourd'hui, il y a la notion de civilisation en tant que, non pas état spirituel ou symbolique de la société, mais comme hiérarchie. Il y aurait des peuples, voire des races, oui, plus civilisés que d'autres. Mais c'est ça qui construit la philosophie républicaine, démocratique de l'époque.
Il dit de la France, article France, état de l'Europe occidentale, que son heureuse conformité géographique, son histoire, sa littérature, on est déjà dans le Petit Lavis, le manuel qui va être répandu partout dans le pays, son histoire, sa littérature, ses arts et son industrie ont placé au premier rang des États civilisés. Et à l'article Moyen-Âge, on peut lire « Une nation est née, romaine par sa centralisation, gauloise par l'audace de son esprit, franque par le sentiment indomptable de son indépendance, universelle enfin, par son génie, la France est à elle seule toute une civilisation. »
Le plus fort, c'est que les contemporains de Pierre Larousse, qui sont brésiliens ou italiens, auraient tendance à le penser aussi. Hein, d'où les
regards... De la France ou de leur pays ?
De la France, bien sûr. Oui, il faut quand même toujours ajouter ça, c'est pas du tout pour justifier quoi que ce soit. À l'époque, ceux qu'on va appeler un peu plus tard les intellectuels, beaucoup d'artistes ont les yeux tournés vers la France, a fortiori quand elle est la France de Larousse, c'est-à-dire celle de 1848 et encore plus celle de la Troisième République.
On est là effectivement aussi... dans les prodromes de Vidal de Lablache, par exemple, que nous évoquions dans une émission antérieure.
Tout à fait. La culture historique, la culture géographique de notre siècle, 20e, peut-être encore un peu 21e, est fondée là, au 19e, sur ses bases.
La France est aussi le pays de la liberté. La liberté est fondamentale dans l'œuvre de Larousse, dans son grand dictionnaire. Il donne... Entièrement, il reproduit entièrement la fable « Le chien et le loup » de La Fontaine. Il donne le texte complet qui lui paraît porter cette idée de l'indispensable liberté.
C'est un libéral, disons le mot, mais c'est aussi un démocrate dans sa nuance, parce que bon, ses origines sociales, il ne va pas les renier. L'article « Noblesse » dit clairement, et il sort juste après la chute du Second Empire et face aux tentatives de restauration monarchique des années 71, 12 et 13, l'article noblesse dit clairement que elle est, je cite, désormais bien détruite, hein, la noblesse. Et il y a des articles tout à fait impressionnants sur le peuple de la jacquerie, article favorable, thème toujours d'actualité, paraît-il. Rose Bouillon aussi, 1867, qui est une obscure, à laquelle c'est son Pinago, en quelque sorte, comme pour Alain Corbin beaucoup plus tard.
Vous faites allusion au livre de Corbin, effectivement, qui a exhumé un personnage inconnu pour en faire la biographie.
Oui, et c'est le cas de Rose Bouillon, et l'article commence, c'est assez connu d'ailleurs, « Non obscur, non ignoré, non méconnu des historiens ». Il règle son compte avec les historiens, et lui, c'est la voix du peuple, hein, et ça se retrouve très régulièrement.
Alors, dans cette émission consacrée à l'actualité de Larousse et de son grand dictionnaire universel, on peut considérer aussi le regard qu'il a porté lui-même sur des contemporains, pour le comparer aux nôtres. Un exemple, Baudelaire, qui est à la fin de sa vie, c'est une lecture de Roger Vrigny sur France Culture le 15 mai 1975, Baudelaire vu par Larousse.
Que conclure de tout cela, sinon qu'il y a un talent, peut-être un génie caché dans M. Baudelaire? Mais ce génie a été visité de bonne heure par le souffle du mal, et le fruit a coulé dans la fleur. Ajoutons que cette fleur a aujourd'hui 45 ans sonné, et qu'il est bien rare de voir se redresser une branche de 9 lustres. Toutefois, ne désespérons pas encore et attendons. Les épis couchés par l'orage se relèvent quand ils sont caressés du soleil. Pourquoi un de ces rayons vivifiants ne percerait-il pas jusqu'à l'âme du poète? Les anciens parlent de certaines lances qui guérissent les blessures qu'elles avaient faites. Donc, espérons les fleurs du bien. Au moment où nous traçons ces lignes, 1er mai 1866, nous lisons dans les feuilles publiques que M. Baudelaire est à l'agonie. Quelques-unes même, qui abusent d'un don de prophétie qu'elles n'ont pas, assurent qu'elles l'ont vu exhalant son dernier soupir. Mais heureusement, des nouvelles plus rassurantes nous arrivent. Espérons donc de nouveau que le poète complétera, corrigera son œuvre. Le ciel n'a pas voulu qu'il meure, et le repentir poétique est désormais pour lui une dette d'honneur.
Le repentir poétique, Pascal Horry, de Baudelaire.
Oui, je crois qu'il faut distinguer deux choses. Le caractère presque excessif des arguments utilisés, d'accord. En même temps, ces dictionnaires, le Larousse comme les autres, reflètent un certain état de la société. Et le regard porté sur Baudelaire, sur les artistes de ce qu'on commence d'ailleurs à appeler, Dieu sait si Baudelaire lui-même s'en est moqué, l'avant-garde. Parce que Baudelaire n'est pas un homme qui croit beaucoup à l'avant-garde, hein, il faut le savoir. Le regard porté sur ces artistes, ces écrivains, ces penseurs, qui sont célébrés par les générations suivantes, est un regard souvent extrêmement incompréhensif ou distant. Et c'est la loi du genre. Que ne va-t-on pas dire, peut-être, des dictionnaires et des encyclopédies d'aujourd'hui, qui auront ignoré tel grand artiste? Moi, j'avais fait un travail sur la manière dont les surréalistes étaient entrés dans les dictionnaires, les encyclopédies. Et évidemment, c'était après la Seconde Guerre mondiale. Le groupe surréaliste, au fond, n'existait plus. Et c'est à ce moment-là, via, en particulier, le ralliement de Éluard et Aragon à la poésie de la Résistance, qu'on pouvait les prendre au sérieux. Évidemment, dans les dictionnaires Larousse, mais pas Larousse aussi, ces auteurs étaient moqués ou complètement absents. C'est comme l'article d'un, je crois que c'était le Larousse du XXe siècle, c'était peut-être encore le précédent, sur Lénine, qui était qualifié, et je pense que c'était neutre dans l'esprit des auteurs, agitateur bolchevique. Bon, ben voilà, écoutez, c'est inévitable.
Alors c'est là qu'il faut en venir, dans ce dernier moment de notre conversation, Pascal Horry, à la question de la mobilité des regards. C'est tout essentiel, et je crois que l'histoire du grand Larousse, comme celle du petit Larousse, qui a été son héritier, qui est apparu au début du XXe siècle, est tout à fait éclairante. Vous voyez ce reportage de 1980 du petit Larousse par Paul-Louis Mignon, Interactualité, 5 septembre 1979.
Le petit Larousse fait peau neuve, beaucoup d'entrées et peu de sortants dans la nouvelle édition 80 que Paul-Louis Mignon a feuilleté pour France Inter. Apparition du disco, de la défonce, du synthétiseur et, gaspille oblige, du capteur solaire.
L'eurocommunisme et le disco font leur entrée dans ce petit Larousse. Notre parler populaire est représenté par Casquet, Défonce et Jules. Jules, mari ou petit ami, Casquet, faire les frais de quelque chose, Défonce, absorption de substances hallucinogènes. Les anglicismes entrent en force à la lettre O avec off, one-man show, open et overdose. Pour les personnalités admises au rayon des noms propres, et pour qui c'est une forme de consécration, Menahem Begin rejoint sa date qui l'avait précédée, les Beatles, dont le groupe s'est dissous, ont ainsi la preuve qu'ils ont place dans l'histoire, Jacques Brel, il aura fallu sa mort pour qu'il soit mentionné, mais il n'a pas encore sa photo, et 5 nouvelles communes de France ont l'honneur de cette édition, Fleury Mérogis, avec pour précision, prison.
On ne s'étonnera pas, Pascal Horry, que vous ayez joué dans un livre important que vous avez publié naguère, qui s'appelle L'Entre-deux-mets, qui est une histoire culturelle de la France de 1968 à 1981, à faire un répertoire des mots nouveaux survenus de la sorte dans les différentes éditions du Petit Larousse, et dont on s'étonne aujourd'hui qu'ils aient surpris dans leur apparition. Je prends par exemple 1972... autodiscipline, café-théâtre, castrisme, design, écologiste, qui apparaissait très étrange en 1972, gourou, groupuscule, marxisant, pavillonnaire, zen, etc.
Le petit Larousse a un statut particulier, il est publié peu à peu annuellement, donc il est supposé tenir compte d'un nouvel usage. On peut être surpris, en même temps, c'est presque fonctionnel de considérer qu'il y a certainement un petit décalage. Prenons café-théâtre, le terme apparaît, sauf erreur, vers 1965, donc 7 ans après, il entre dans le petit Larousse. C'est à la fois un peu long, en même temps pas si long que ça. Ce qui est intéressant, c'est la configuration qui naît là, dans l'extrait qu'on vient de nous diffuser. Je ne suis pas sûr que eurocommunisme figurera encore dans le petit Larousse d'aujourd'hui, alors que disco, oui. Donc, il y a des entrées, il y a aussi des sorties. Et j'encouragerais tous les lexicologues, ils n'ont pas besoin de mes encouragements, à poursuivre ces analyses très fines des mots qui entrent, mais aussi des mots qui sortent.
Nous allons en parler, mais j'observe que là, en tout cas, on est dans la ligne du grand Larousse, exactement, de Pierre Larousse, puisqu'il disait, dans son nouveau dictionnaire de la langue française, antérieur au grand dictionnaire, 1856, que la langue était vivante et que le dictionnaire devait évoluer avec elle.
Oui, c'est le problème éternel des lexicographes. De quelle langue parle-t-il? D'une langue déjà du passé, presque de l'époque de leur formation, ou de la langue de la rue, mais pas trop. Vous savez que le dictionnaire de l'Académie française se présente comme un dictionnaire de l'usage. C'est une contradiction dont on ne sort jamais complètement. Mais pour un historien, pour un curieux, pour tous nos auditeurs, toutes nos auditrices, curieux de la manière dont les sociétés évoluent, c'est passionnant de se replonger dans ces dictionnaires décalés, parce que, d'une certaine façon, on comprend à quel point le temps passe, puis en même temps, les récurrences, hein, parce que Larousse a des formes d'actualité. Je parle de Pierre.
Nous avions, voici quelque temps, évoqué la féminisation des mots avec Bernard Sacchellini, qui... c'est un phénomène qui se situe exactement dans la ligne de ce que vous dites.
Absolument. Un des grands enjeux d'aujourd'hui est incontestablement l'enjeu du genre. Ça, je pense que c'est un terrain sur lequel Pierre Larousse, évidemment, serait très déconcerté aujourd'hui.
Alors, il y a les mots qui entrent et puis il y a les mots qui sortent. Dans l'une des dernières éditions du Petit Larousse, le même Bernard Cerchiglini a pris plaisir à repêcher des mots qui étaient dans le grand dictionnaire universel et qui ont aujourd'hui disparu. Je n'en cite que quelques-uns. Bretailleur, qui est toujours prêt à tirer l'épée. Claque-dent. Claque-dent, ça veut dire gueux, misérable. Cogne fêtu, qui s'agite, qui se donne beaucoup de mal pour ne rien faire. Croque-note, ça c'est encore dans Georges Brassens. Croque-note, mauvais musicien. Dameret, qui fait le beau auprès des dames. Mugueté, on connaîtrait encore le mot, je pense que vous l'emploieriez volontiers, peut-être, dans votre vie privée. Dans votre vie privée. Dans votre vie privée, oui, faire le galant auprès des dames. Et puis, ce mot que j'adore, patte pelue.
Superbe.
Qui va adroitement à ses fins, sous les apparences de la douceur et de l'honnêteté. Le pluriel est patte pelue, avec un S ou bien ES. C'était avant l'écriture inclusive.
Gallica ou pas, on ne peut qu'encourager nos auditeurs et nos auditrices à se replonger dans ces dictionnaires, à commencer par le grand dictionnaire universel. C'est un océan, aurait dit Victor Hugo, et on n'en sort pas, mais on ne se noie pas. C'est délicieux.
Alors, il faut peut-être finalement s'intéresser à l'héritage du côté des dictionnaires, l'héritage du grand Larousse, avec cette famille qui s'est constituée autour, famille Larousse, et puis des rivaux. C'est toujours bien pour aiguillonner le talent, le Robert en particulier. Il y a même eu un dictionnaire qui s'appelait Maxi Lego, qui est mort parce que les dictionnaires installés ont fait un procès en sa direction, qu'ils ont gagné. C'est Jean Pruvot qui le raconte en détail, car ils ont posé la question du plagiat. Dans le domaine des dictionnaires, la question du plagiat est extrêmement présente.
La maison Larousse est restée une maison familiale pendant 125 ans. Pierre Larousse n'avait pas d'enfants, en tous les cas légitimes, mais par le biais des neveux, la famille Ollier, des nièces, des mariages, ceux qui étaient aussi liés à son premier associé, Augustin Boyer. Au total, les Ollier Larousse, les Gillon, les Moreau, les Auger... ont perduré, et le nom d'Auger est important dans la mesure où Claude Auger est le créateur du Petit Larousse illustré, c'est-à-dire que il avait déjà été à l'origine de la deuxième édition d'un grand dictionnaire encyclopédique, plus modeste que celle de Pierre Larousse. Ce n'est que 7600 pages, c'est vraiment très peu.
Une bagatelle.
Et le nouveau Larousse illustré, la grande nouveauté, puisqu'on parle de technologie depuis le début de l'émission aussi, c'est que désormais, l'illustration, y compris en couleur très vite, s'invite dans le Larousse, alors qu'il faut le savoir, bien sûr, le grand dictionnaire universel du XIXe siècle n'intègre pas encore l'illustration. Ça, c'est 97. Et quand Auger a terminé ce travail, sinon de titan, en tous les cas, de bon géant, le nouveau Larousse illustré, il passe à l'étape suivante, le petit Larousse, qui ne sera pas tout à fait annuel au début, qui est devenu un peu rituel. Et là, c'est une extraordinaire réussite, y compris en effet commercial. Alors, vous avez raison, Jean-Noël Jeannet, à partir, mais c'est assez tard, des années 50-60, apparaissent des concurrent crédible. Il y avait eu un concurrent dans l'entre-deux-guerres qui était le dictionnaire ou l'encyclopédie autodidactique, dans mes souvenirs, qui est.
Autodidactique, c'était déjà Wikipédia ?
Peut-être. En tous les cas, ça voulait pêcher dans les eaux de Pierre Larousse, à savoir, après tout, moi je m'adresse au plus large public. Mais enfin, ça n'avait été qu'un demi-succès. Effectivement, le Robert que vous avez cité des années 50-60, là, est un concurrent en particulier sur le terrain de la langue, mais ensuite, ayant gagné quelques mètres ou kilomètres carrés sur le terrain de la langue, il va progresser dans une autre direction.
La direction des choses.
Voilà.
Il y a toujours ce double aspect qui était très original dans le grand Larousse, c'est-à-dire s'intéresser non pas seulement au langage, comme l'a fait son grand concurrent à cet égard de l'époque, l'immense Émile Littré,
Encore un penseur du siècle des Lumières, un républicain. Et donc, là, la concurrence devient dru. Larousse, la maison Larousse, avant ou après Claude Auger, a toujours su répondre. Ils ont inventé le Larousse mensuel, ils ont inventé les classiques Larousse, ils ont inventé le Larousse médical, le Larousse gastronomique. Et tout ça, quand même, s'épuise un peu. Mais ce qui va être extrêmement dangereux, évidemment, c'est l'entrée dans le 21e siècle d'Internet.
Charles Dantzig, dans son dictionnaire égoïste de la littérature, affirmait qu'il y avait eu un moment où 700 000 exemplaires du Petit Larousse avaient été vendus, c'est-à-dire exactement le nombre de bébés apparus sur cette terre.
On imagine la scène, chaque bébé recevant dans son berceau un exemplaire du dictionnaire, du petit, au moins un dictionnaire, mais qui est déjà fort gros. Mais je connais pas mal de personnes qui continuent à offrir, par exemple, comme cadeau après la réussite au baccalauréat, ce qui n'est plus un événement si rare que ça, bien sûr, le Petit Larousse illustré, oui.
On a perdu une partie du fameux logo, comme on ne disait pas à l'époque, je ne sais pas quand le mot est entré dans le dictionnaire, dû à Eugène Grasset, avec la semeuse qui soufflait sur un pissenlit en disant « je sème à tout vent ».
Oui, ça s'est fait en deux étapes, et grâce à André Rétif ou à Jean Pruvot, les spécialistes de l'histoire de la maison Larousse, on en sait un petit peu plus. Ça a commencé avec le pissenlit, c'est le pissenlit qui parlait, d'une certaine façon, et qui disait « je sème à tout vent », sans femme. Et puis, étape suivante, Grasset, effectivement, à l'époque d'Auger, un peu d'érotisme, faut-il le dire, oui, parce que le sein est nu, il sera d'ailleurs drapé ensuite. Ne messiez pas.
L'histoire du dictionnaire, c'est aussi une histoire de la pudeur.
Ah, c'est certain. Donc on a fait une marche arrière en ce qui concerne le sein de la semeuse, appelons-la comme ça. C'est pas la semeuse des timbres-poste, etc. C'est la semeuse de Larousse, qui sème aussi à tout vent. Et ensuite, Picard Ledoux, et ensuite Castelbajac, et ensuite Karl Lagerfeld, qui vont gloser, arpéger sur cette image-là. Il y a un sens, en effet, du marketing, dira-t-on plus tard. À quel moment le mot marketing est-il entré dans le Petit Larousse? Il faudra le vérifier.
J'observe que, au long d'une conversation comme la nôtre, constamment, on a envie de s'arrêter pour se demander, tiens, quand le mot est-il arrivé? Larousse, il ne faut pas voir en lui un barbon. Il a constamment préconisé la gaieté. Ses descendants ont d'ailleurs été fidèles, puisque dans le catalogue de 1881, on voit la gaieté prise à certaines doses, tout de même, prise à certaines doses, est un assaisonnement qui ne gâte point les bonnes études, et qui même y dispose l'esprit en le délassant. Il faut que la joie du jeune âge soit franche, ouverte, et s'épanouisse en plein air sous le soleil, comme l'églantine le long des sentiers, ou qu'elle s'ébatte comme le bouvreuil sur la branche.
On est dans la généalogie de Rabelais, hein ? C'est clair, il n'y a pas contradiction entre le savoir et la gaieté.
Je pense que cette conversation aura démontré cela, je l'espère en tout cas, à l'oreille de nos auditrices et de nos auditeurs. Je relève un propos d'Alexandre Dumas, fils, en 1881, et qui disait qu'une bonne bibliothèque pouvait se réduire à trois ouvrages, peut-être ceux qu'on aurait envie d'emporter dans une île déserte. Il disait l'Évangile pour la morale religieuse, les fables de La Fontaine pour ce qu'on appelle la morale pratique, et le Grand Larousse pour les dates et pour les faits.
C'est un peu réducteur. On peut quand même ajouter le Grand Larousse pour les définitions de mots, parce que Larousse reste un homme de la langue. Son expertise initiale, sa gourmandise, c'est quand même la langue. Et alors, la question qu'on peut toujours se poser, mais nous n'aurons pas la réponse, nous ne l'aurons que dans 20 ans, vous m'inviterez à ce moment-là, Jean-Noël, dans votre émission, c'est de savoir si c'est un effet de génération, c'est-à-dire que plusieurs générations, depuis le 19e siècle, c'est quand même considérable, ont dû beaucoup, parfois même l'essentiel, moi je dois beaucoup, personnellement, Larousse du 20e siècle, hein, je l'avoue, allez, je fais de l'autobiographie. Est-ce que ça va être encore le cas dans 20 ou 30 ans?
Vous voulez dire que l'informatique, terminant comme nous avons commencé, risque de briser, en définitive, cet ensemble, cette tradition des dictionnaires qui pourtant, je le disais, sont très vivaces aujourd'hui. Regardez la collection du dictionnaire amoureux, ça marche très bien.
Un concurrent de Larousse qui n'est rien moins que Marcellin Berthelot, qui avait pris l'initiative à la fin du 19e siècle de la grande encyclopédie, avait consacré un article un peu perfide au concurrent en disant que oui, les journalistes C'était beaucoup servi du Larousse. Alors on sentait la condescendance, que tout ça n'était pas toujours très sérieux. Alors aujourd'hui...
Marcelin Berthelot est au Panthéon, ce n'est pas le cas de Pierre Larousse. Suggestion au président de la République.
Oui, oui. Et comme vous le savez, Jean-Noël, c'est pas vous que je la prendrai, il y est avec son épouse de manière subreptice, Marcelin. Oui, mais alors en même temps, ça me fait penser au fait que, prononçons le mot, aujourd'hui, c'est Wikipédia qui a ce statut-là. C'est-à-dire que, bien sûr, n'importe quel journaliste, n'importe quel étudiant de la Sorbonne ou d'ailleurs, j'ai pu le vérifier, se précipite d'abord sur Wikipédia et parfois n'en sort pas. Voilà, nous en sommes. Pourquoi pas. Je pense qu'il y a une vertu du livre, il y a une vertu de ces versions établies, et puis l'intercirculation du feuilletage vaut celle de l'Internet. Je feuillette l'Internet, mais je feuillette encore Larousse.
Pascal Horry, peut-être, cela peut-il être une sorte de conclusion. Je rappelle que vous avez, avec Jean-Yves Mollier, organisé en 1995 un livre vraiment magnifique. Je crains qu'il soit épuisé, mais on doit pouvoir se le procurer. Pierre Larousse et son temps, vous y donnez en facsimilé un grand nombre de pages du grand dictionnaire dont nous avons parlé ce matin.
Tout à fait, ça a été un des grands plaisirs de faire appel à une large cohorte d'experts et d'amateurs, de reproduire de nombreuses pages du grand dictionnaire.
Et d'où cette belle idée vous est-elle venue, Pascal Horry, avec la complicité de Jean-Yves Mollier ?
Il faut dire que Jean-Yves et moi avions déjà travaillé séparément sur Pierre Larousse, dont on faisait un personnage central de l'histoire de la culture républicaine. C'était un peu ma contribution, entre autres, au lieu de mémoire de Pierre Nora.
Oui, il y a une biographie par Mollier de Larousse.
Et d'autre part, effectivement, Jean-Yves, par le biais de son histoire de l'édition et son intérêt, bien sûr, aussi pour la culture républicaine, avait rencontré sur son chemin à plusieurs reprises Pierre Larousse. Et ce sont tout simplement les éditions Larousse qui nous ont proposé de travailler ensemble à cet ouvrage collectif.
Et puis, entre autres ouvrages consacrés à Pierre Larousse, dont on trouvera la liste sur notre site, je voudrais rendre hommage, je l'ai fait déjà, mais je le crois juste et nécessaire, je voudrais rendre hommage à Jean Pruvot. Deux ouvrages de lui, d'une part le Dico des dictionnaires, histoire et anecdote, c'est succulent, c'est riche, c'est passionnant. Et puis, chez Honoré Champion, je l'évoquais tout à l'heure, un livre qui propose 2500 citations, sur les dictionnaires eux-mêmes. Ça, c'est une construction en abîme. 700 auteurs du 16e au 21e siècle. Vous pourrez trouver sur notre site les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez également vous référer à nos émissions antérieures depuis 2010, je crois, ou 2011. Plusieurs recoupent celle-ci et vous pourrez écouter, réécouter et podcaster notre conversation. Samedi prochain, ah, on parle beaucoup de la démocratie actuellement. Il paraît qu'elle est mise en cause, menacée de toutes sortes de façons. Démocrature, c'est un mot qui est entré récemment dans le Petit Larousse. Eh bien, nous parlerons de Périclès. Périclès, est-il vraiment démocrate? J'inviterai Vincent Azoulay, l'auteur d'une belle biographie de Périclès. Lundi prochain, vous pourrez retrouver au matin, à 9h, la Fabrique de l'Histoire d'Emmanuel Laurentin, qui consacrera sa semaine au sujet suivant. L'histoire des pirates et des corsaires.
Au voleur, au voleur, au voleur, qui a volé les mots, qui a volé les mots, encore ces Français, quel culot, voler les mots.
Eh bien, c'était Concordance des temps de Jean-Noël Jeannet, une émission préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Yael Mandelbaum. Ce générique étant prononcé sur le fond d'une chanson de Michel Bernard, Qui a volé les mots, en 2012. C'est Ludovic Auger qui opérait à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, nous avons fait fond sur le soutien de Clary Monac.
Ça va bien plus loin, ils ont même volé les Polynésiens, piqué paréo et tabou au toit motou. Chez les Chinois, le mot typhon soufflait pour de bon.
Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ockrent pour Affaires étrangères.
Aux Arabes, c'est le bouquet. T'imagines pas ce qu'ils ont piqué? Le parda, le safari, le café, le nénuphar, la guitoune et le satin, la valise et le hasard, le magasin,
le cramoisi,
le charabia
et le chini,
le sirop,
le sirop,
le sofa,
le sofa,
le souk et la nouba. Voleur, qui a volé les mots? Qui a volé les mots? Encore ces Français, quel culot, volé les mots. Regardez, ils en ont plein la bouche, plein les poches. De tous ces mots piqués partout, du gros pack, c'est moche. Voler des mots sans en avoir l'air et les coller en douce dans son dictionnaire. Voler des mots sur toute la planète. Ah, vraiment, ces Français sont pas nets, de vrais pickpockets. Voler aux Grecs, aux Latins, aux Gaulois.
Ça va de soi, ça va de soi.
Voler aux Anglais, aux Allemands, aux Italiens.
C'est normal, notre voisin, c'est normal, notre voisin.
Oui, mais voilà, ça va bien plus loin. Ils ont même volé les Amérindiens.